France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'imitation est notre sujet cette semaine. Imiter, une activité que robots et intelligences artificielles font peut-être mieux que nous, en tout cas dans certains domaines, nous en parlons. Pour apprendre, il faut imiter. On le dit souvent, mais qu'est-ce que cela signifie exactement sur le plan neuronal ? Que se passe-t-il dans notre lobe préfrontal ? Que veulent dire des neurones miroirs ? Vous voyez, j'ai tout appris, en tout cas ce vocabulaire, en travaillant cette émission, mais je vous rassure, je ne vais pas me prendre pour une neurologue que je ne suis pas, et cela me permet de souligner qu'imiter, apprendre, ce n'est pas encore savoir vraiment et en profondeur, ce n'est pas encore maîtriser un domaine de recherche et être capable de l'appréhender en inventant à son tour de nouveaux outils et concepts. D'où cette question. On peut, et même on doit, imiter pour commencer à comprendre, mais suffit-il d'imiter pour savoir ? Pour savoir vraiment. Je vais interroger des spécialistes de ce problème ce matin, problème qui mène tout droit aux intelligences artificielles et robots divers, car que savent-ils vraiment tous ces êtres qui imitent parfaitement, parfois mieux que les humains ? Les IA apprennent, c'est très impressionnant, mais jusqu'à quel point maîtrisent-elles ces connaissances ? Y participent-elles véritablement en faisant le tri, en avançant, en raisonnant, en étant des chercheuses et des inventeuses, et non pas seulement des singes ou des perroquets terriblement perfectionnés ? Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeure d'informatique appliquée aux sciences sociales à Sorbonne Université, chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique du CNRS. Vous avez beaucoup publié sur l'intelligence artificielle, vous êtes déjà venue ici pour nous en parler. Votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions du CERF. Il s'intitule « L'IA, ange ou démon, point d'interrogation, le nouveau monde de l'invisible ». Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences cognitives au Centre de recherche de l'Institut du cerveau. Vous avez publié beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, y compris des ouvrages à destination du grand public. Votre dernier livre, qui vient de paraître, Lionel Nakache, aux éditions Odile Jacob, s'intitule « Sujet, es-tu là ?»
Ça y est, on y est, les deepfakes, ces vidéos ou ces audios truqués générés par des intelligences artificielles commencent à inonder le web.
Et oui, et on commence avec 50 nuances de deepfake de Kylian Mbappé. Voici une vraie publicité, une vidéo pour une appli de casino diffusée en France sur Facebook ou Instagram ces dernières semaines.
Cette application a augmenté les chances de gagner. Elle est de 96%. Je vous recommande de vous dépêcher de télécharger l'application.
On le voit parler, les lèvres sont synchronisées, sa voix ressemble à la vraie voix de Mbappé, mais tout a été généré par une IA. Le deepfake est assez réussi, on peut se laisser piéger, et l'objectif de l'arnaque, c'est que vous fassiez un dépôt sur une appli de casino en ligne. Et évidemment, vous ne reverrez jamais votre argent. D'autres deepfakes du joueur, vous allez voir, sont un peu moins réussis.
Bonjour les amis, Kylian Mbappé est là. Bienvenue dans le nouveau monde du divertissement et des revenus. Un lieu où le luxe rencontre l'excitation.
Parfois, le deepfake est complètement raté. Là, vous êtes censé entendre l'attaquant du PSG au JT de 13h de TF1.
Je suis heureux de l'avoir fait. J'essaie d'aider tout le monde. Les autorités essaient de m'en empêcher. Elles ne veulent pas que tous les Français soient riches.
C'était Stéphane Jourdain, le 21 mars 2024 sur France Inter, la tech, la première émission dans laquelle il évoque les différents deepfakes qui existent du footballeur Kylian Mbappé. Laurence de Villers, elles ont vraiment fait des progrès, hein, les IA, quand on retourne en arrière, comme cela vient d'être vu. Est-ce que, alors je vais directement à ce problème qui intéressait beaucoup Turing, Alan Turing, en 1950, il disait qu'il y a quand même un moment de rigidité dans les voix, c'est très difficile pour une IA de sonner vraiment comme un être humain, il les testait. Est-ce que maintenant, elle gagne à tous les coups le test de Turing ?
Oui, je pense qu'on est vraiment arrivé à une période où on a des corpus énormes, des bases de données de voix qui sont très grandes, avec beaucoup d'expressivité. Hein. Le but du jeu, c'est pas d'inventer cette expressivité, mais d'aller la chercher dans les corpus de données présentes. Donc faire une voix maintenant de quelqu'un avec cette tessiture émotionnelle est beaucoup plus réaliste. C'est clair qu'il y a une confusion très forte.
Et cette souplesse dans la manière de parler, vraiment, aujourd'hui, si on faisait ce test de Turing, il le faisait souvent, est-ce que vous reconnaissez un humain ou une IA ? À quel moment ça sonne pas comme un humain ? Vraiment, aujourd'hui, le deepfake, c'est gagné. On peut se faire leurrer complètement. Et j'ajouterais, même les IA ne reconnaissent pas des IA.
Alors, on fait des systèmes d'IA pour essayer de détecter les deepfakes qui ne sont pas à 100% de réussite. Donc, effectivement, l'humain se fait souvent avoir par ces images retravaillées ou ces voix retravaillées par l'IA. Et la machine n'est pas capable non plus de réaliser un test à 100%. Donc on est sur une incertitude. C'est un monde demain où on va générer...
On ne saura vraiment plus du tout les images qu'on reçoit.
C'est pour ça qu'il est urgent d'apprendre comment c'est fabriqué.
Oui, mais c'est terrible parce que vous dites que ça ne sert à rien de savoir, puisque même les IA, ou même quand on sait comment c'est fabriqué, on ne reconnaîtra pas.
C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut comprendre quel est le sens de ce qui est énoncé. Et pourquoi, dans quel contexte il est donné ? Est-ce que ça a un vrai sens ? Est-ce que ça peut être une manipulation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a vu les deepfakes à la télé, de, je sais pas, du pape en doudoune blanche, on a bien compris que c'était un canular ou quelque chose comme ça. Quand c'est une actrice dénudée qui fait une sex tape, c'est aussi quelque chose qu'on comprend être à décision néfaste. Quand c'est une image de guerre manipulée, comme on l'a vu avec l'Ukraine, c'est un sujet politique. Donc c'est là où il faut comprendre que chacun doit, d'abord, on doit essayer de réguler, donc il y a des moyens, des filigrammes qu'on pourrait mettre dans ces audios ou dans ces images qu'une IA pourrait détecter, non pas juste en regardant les défauts, mais en ayant une trace écrite, ce qui est compliqué aussi, parce que ça a d'autres incidences qui pourraient être de manipuler aussi ces filigrammes. On parle de tatouage numérique, en fait, derrière, pour dire ça a été fait par une machine. Donc, il y a plein de possibles, et à chaque fois, on voit arriver un contre qui pourrait être un mésusage de ces techniques. Donc, pour moi, c'est avant tout à l'intelligence humaine qu'il faut parler. Ouais. Ces machines imitent la surface et n'imitent pas le fond. Donc on doit apprendre à raisonner devant ces objets fake, donc qui sont des imitations, en essayant de trouver pourquoi elles sont là, dans quel contexte, à quoi elles servent, et ainsi essayer de déterminer qui les a fait et est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. Ce jeu-là doit être appris très vite à l'école, hein, non pas pour utiliser les outils, mais pour apprendre les concepts, démystifier, et parler d'éthique de tout cela. On a besoin de réguler, mais la régulation ne suffira pas. Donc il faut que l'être humain soit capable d'être plus outillé mentalement pour arriver à réfléchir.
Ce qui est formidable dans ce que vous dites, vous évoquez l'enquête, vous évoquez le sens du vraisemblable.
Exactement.
C'est exactement ce que disaient des philosophes empiristes du XVIIIe siècle, en particulier David Hume. Quand on n'a pas de certitude, voilà, on enquête, on jauge, on a des critères du vraisemblable. Vous voyez, il va falloir qu'on revienne à la sagesse des Lumières écossaises.
Et Blaise Pascal le disait très bien, il disait, dans ses pensées, qui ne sont pas un univers nouveau non plus, il disait « agir avec raison dans l'incertain ».
Alors je vous écoute, Lionel Nakache, vous êtes spécialiste du cerveau, et notamment ce sens du vraisemblable, oui. Cette curiosité critique, et il faut bien le dire, sceptique, puisque j'évoquais David Hume, c'est quelque chose qui se loge à un endroit du cerveau, c'est une fonction cérébrale.
Alors peut-être même en écho même à ce que vous disiez toutes les deux, qui est vraiment fascinant, il y a aussi une autre dimension, je pense, qui est importante dans ces aspects de deepfake. Ce sont des outils, des technologies totalement nouvelles, et qui, je trouve, font rebondir aussi un autre aspect important, c'est presque, sans être trop emphatique, la conception qu'on veut avoir de l'existence. Autrement dit, il y a des traditions selon lesquelles, en fait, tout ce qu'on donne à voir de nous, toute l'apparence, je pense à un philosophe, je crois, espagnol, Baltasar Gracián, qui considérait que exister, c'est apparaître. Il n'y a pas d'intériorité, en fait, que rien ne se donne à voir, en fait. Et là, évidemment, on a des outils qui vont nous mettre au défi. Vous évoquiez Turing. Moi, je trouve qu'on a presque souvent une impression presque de Turing inversé. Ça veut dire qu'on commence à se dire, en s'introspectant nous-mêmes, à quel moment je ne parle pas comme un chat GPT, quoi. Ça veut dire... Et donc, du coup, pour moi, ces outils-là, ils viennent renvoyer, et c'est ça qui m'intéresse le plus, à quel point notre conception de l'existence, elle se résume à quelque chose qu'on donne à voir, et donc un algorithme donne à voir un discours, ou une image, ou un son, ou est-ce que justement ça nous permet de faire un focus sur cette notion d'intériorité subjective, et c'est celle que moi j'étudie beaucoup. Voilà, c'est en fait au-delà de ce qu'on donne à voir, au-delà des comportements, de ce qui se manifeste, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et c'est évidemment, aujourd'hui on peut réappréhender cette question, et comme vous le disiez, c'est des questions immémoriales. Est-ce qu'on est dans une sorte, est-ce qu'on duplique le réel, est-ce qu'on est en fait dans une sorte de conception du sujet qui serait déconnectée du monde. Donc toutes ces vieilles questions philosophiques qui sont fascinantes, je trouve qu'elles sont remises en lumière par ces outils. Ouais, absolument.
Et alors cette faculté d'imiter qu'ont les IA, bon, c'est vrai qu'on a longtemps dit il y a des choses qui sont faciles pour les humains, difficiles pour les robots, et des choses faciles pour les robots, difficiles pour les humains. Et normalement, enfin, on dit, vous me corrigerez tout à l'heure, Laurence de Villers, si je simplifie ce, je crois qu'il s'agit d'un paradoxe d'un certain Moravec, n'est-ce pas?
Exactement.
Bon, alors on en parlera en détail, mais j'avais cru comprendre que les humains étaient plus forts pour la reconnaissance faciale, justement, pour mettre ce que des jugements synthétiques dirait Emmanuel Kant, et alors que les des choses sensibles pour juger sur du sensible, alors que les machines sont plus fortes pour les trucs hyper logiques, les quantas.
On s'est beaucoup trompé.
Et ben on s'est trompé.
Mais oui, si vous voulez, reprenez même je sais pas, moi on a tous un certain âge, pas très avancé, mais en gros guerre froide, les compétitions d'échecs, je veux dire, ce qui paraissait comme le summum de l'intelligence humaine, c'est ce qui est tombé en premier, en fait. Je veux dire, Deep Blue, battre le champion du monde d'échecs, c'est la première chose qui est tombée.
Mais là, on est dans des logiques et des probabilités en fonction des pièces sur un échiquier, tout ça. On n'est pas dans...
C'est la reconnaissance des visages,
sensible.
Vous voulez dire?
Oui, par exemple.
En fait, une des choses qui, c'est pour ça aussi que la discipline de Laurence est fascinante, c'est que les choses qui semblent les plus complexes, c'est de pouvoir en temps réel construire et corriger des modèles du monde sur lesquels on agit. Et ça, en fait, on ne sait pas vraiment quoi. En tout cas, on a beaucoup plus de difficultés à le faire que, comme vous le disiez, de pouvoir extraire. C'est pas mon domaine, mais je travaille beaucoup avec des équipes qui font des apprentissages convolutifs, les algorithmes de deep learning. Et quand vous discutez avec les inventeurs de ces algorithmes, comme Yann LeCun ou d'autres, en fait, au début, ils cherchent à imiter le cerveau. C'est vraiment ce qu'on appelle du neuromimétisme. Et donc, ils construisent en fait une série de couches de neurones synthétiques ou artificiels, simulés, et à partir de ça, essayant de reproduire les propriétés d'abstraction de ce qui se passe dans un cerveau. Et ça marche assez bien, effectivement, pour identifier d'une scène visuelle un objet, on pourrait presque dire un concept visuel qui va s'abstraire de sa forme, sa taille, sa position dans l'image, son angle de vue, etc. Et dans un cerveau humain, on commence à savoir comment ça se passe, et ces algorithmes, en gros, arrivent à imiter. Alors, mon collègue et ami Stanislas Doan considère, et je suis assez d'accord, que ce qui se passe aujourd'hui, personne n'est là pour prédire le futur, mais en gros, quand je vous vois, les deux premiers dixièmes de seconde de ce qui se passe dans mon cerveau, qui est un traitement rapide, élaboré, non conscient, on commence à s'en approcher, en fait. Mais tout ce qu'il y a après...
Vous voulez dire, les IA sont capables
on peut
de faire ça.
Capables, en tout cas, s'approchent assez bien, mais qu'en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de données qui permettent la prise de conscience d'une information subjective, et dans un cerveau, c'est un événement majeur, et pour l'instant, on n'a pas. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, personne n'en sait absolument rien, mais aujourd'hui, du coup, il y a un décalage.
Oui.
C'est aussi là qui est intéressant, c'est de dissiper des fantasmes. Qu'est-ce qui est possible dans ces algorithmes et ce qui est déjà en soi fascinant et qu'est-ce qui n'est pas du tout présent pour l'instant. Voilà.
Laurence de Villers, sur ces nouvelles facultés qu'on croyait quand même typiquement humaines, le rapport au sensible, vérifier que quelqu'un qui a peut-être un peu changé, grossi, maigri, est quand même la même personne, enfin, ces choses qui sont très simples pour les humains sont en train de le devenir pour les IA. Et ça, on s'y attendait vraiment. C'est quand même difficile de reconnaître des choses sensibles pour une IA, non?
D'abord, ce sont pas des choses sensibles. Ça reconnaît sur des images, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec un humain dans sa complexité spatiale, chronologique. Et même si on prend le chat, si on regardait les filles, détecter un chat d'un chien sur une photo, c'est pas savoir que le chat griffe ou qu'il ronronne ou qu'il a une certaine odeur, d'accord? Donc, ce sont pas des choses sensibles. Ce sont des clichés numérisés du réel.
D'accord. Merci de
rectifier. Attention à ça, parce que cette confusion, c'est qu'on propage cette idée que ces machines vont beaucoup plus loin. Et sur ces images numérisées du réel, la machine peut les voir en milliards de milliards et regarder des signaux faibles non visibles par l'œil humain. Si je prends l'audio, j'entends pas les infrasons, les ultrasons, la machine les entend. Elle voit des micropixels répétés, signaux faibles, c'est-à-dire répétés largement, qu'elle peut détecter, qui lui permet de détecter des tumeurs précoces ou qui lui permet d'avoir une bonne acuité pour reconnaître les visages.
Alors qu'est-ce qu'elle ne peut pas bien faire?
Ce n'est pas de la sensibilité. Ce qu'elle ne sait pas faire...
J'ai pris un mauvais exemple. Trouvez-moi un exemple peut-être de choses encore très difficiles pour elle, les IA.
Eh ben, le principe de Mort avec, c'est qu'effectivement, demain, on va remplacer les journalistes ou les gens qui travaillent avec du numérique, les traducteurs, etc., sur tous ces objets numérisés, l'école grise, comme on le dit, mais on va pas remplacer le plombier. Parce que le plombier, il arrive dans votre espace, il doit savoir où est la fuite, quel est le lavabo, et à chaque fois, c'est différent. Donc, ça demande de la créativité, de l'adaptabilité dans le modèle du monde, avec du sens commun, avec une compréhension de l'espace et du temps, et ça, les machines ne l'ont pas.
Mais ne faut-il pas tout cela pour être journaliste aussi? Enfin, excusez-moi.
Hein, écoutez, j'ai voulu être provocatrice.
Moi, je serais incapable d'être plombier, exactement. Je reconnais humblement. Mais je voudrais savoir si pourquoi ce métier-là est plus difficile pour une intelligence artificielle qu'un métier de l'oralité où il faut intégrer...
Parce
voilà, pourquoi
vous avez fait cette confusion au départ sur l'espèce sensible ou pas. C'est-à-dire que nous avons... Nous, une façon dans l'espace de savoir ce qui est caché derrière quelque chose, d'inventer l'invisibilité parce qu'on a un sens commun de l'environnement qui est autour de nous, la machine n'a absolument pas cette propension. Dès qu'on voit un nouvel objet, l'affordance est de savoir à quoi il pourrait servir. La machine n'a absolument pas ça. Lorsque vous avez des données numérisées et que vous raisonnez sur l'espace de tout ce qui est dit, finalement, vous pouvez élaborer quelque chose. Mais ces machines, pour autant, ne raisonnent pas. Elles sont sur la surface, elles font des statistiques. Si je prends le ChatGPT, 3 types d'interactions avec cette machine. Si je demande quelque chose qui est très peu présent, qui n'est pas du tout présent ou unique dans la base de données, je vais le retrouver. Exactement. Et on dira, waouh, c'est incroyable, cette machine sait même ça. Donc ce qui est faux, on projette ça. On projette qu'elle a des connaissances. En fait, elle n'avait que cette source, donc elle a imité ce qui était présent. Si vous posez une question générique, elle va faire un fousitou de toutes ces données textuelles, visuelles qu'elle a. J'aime bien ce mot fousitou.
Mais moi j'aime bien aussi, je viens de le découvrir.
C'est un spot de puzzle. Les unités que code cette machine sont extrêmement petites. On essaie maintenant de faire des concepts, mais ça reste de l'algorithmie et des statistiques. Et elle va trouver finalement le mainstream, c'est-à-dire ce dont les gens parlent le plus, ces unités qui sont les plus fréquentes. Et elle fait donc une invention de petits bouts sans aucune intention cognitive derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette machine est donc un algorithme qui produit des formes les unes derrière les autres qui ressemblent à notre langage, mais qui n'ont absolument pas ni vision, ni intellect quelconque. Même pour les... J'ai entendu sur les radios, excusez-moi, qu'ils faisaient une meilleure poésie que nous, ces systèmes, à la Baudelaire, à la ce que vous voulez. Ce qu'ils font, ils imitent le langage sur quelques mots, il n'y a pas d'idée derrière, ce n'est pas du surréalisme, ni du dadaïsme, ni rien du tout. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'intention. Or, quand je vous parle, j'ai une intention. Ces machines n'en ont pas. Et je crois que c'est ce principe-là qu'il faut comprendre. Vous parlez à quelque chose de vide, qui reproduit des choses, et c'est tout. Et quand elle ne trouve pas dans sa base de données quelque chose, elle va halluciner. C'est-à-dire que, c'est encore une métaphore ce mot, elle va trouver ce qui est le plus proche, et vous, finalement, sortir quelque chose de nouveau, que vous allez pouvoir trouver intéressant ou pas, ou qui est une vaste erreur. En tout cas, la machine ne sait pas ce qu'elle dit, ne comprend pas ce qu'elle dit, n'a pas d'intention, et donc est un pur perroquet stochastique, comme dit certains.
Néanmoins, elle peut créer du nouveau, par hasard.
Exactement, et nous allons peut-être trouver des choses intéressantes, et dans plein de métiers, c'est intéressant. Mais il faut vraiment déconstruire ce qu'elle sait faire.
Comment le cerveau humain, Lionel Nakache, crée du nouveau, un peu réfléchi, pas juste par hasard? Comment ça marche?
Un des aspects, c'est en revenant justement sur presque la forme de paradoxe ou de problème que vous soulignez dans l'imitation, c'est qu'on apprend par imitation, mais vous le disiez vous-même, l'imitation n'est pas suffisante. Parce que l'imitation, on pourrait imaginer que imiter quelque chose, imiter une procédure motrice, imiter même une procédure de calcul ou imiter une poésie qu'on reproduise, etc. On pourrait imaginer que le modèle abouti de l'imitation, c'est de devenir presque une sorte de miroir, de renvoyer ce qu'on est en train de voir et donc de s'effacer. On revient à cette idée de couche interne, de couche de travail intérieur, qu'il n'y ait que ce qui est à voir. Et en fait, ce qui se passe dans un cerveau humain lorsque nous apprenons par imitation, c'est que plutôt que de renvoyer ou que de reproduire parfaitement ce qui est à voir, ce que donne à voir l'imitation, c'est qu'elle en fait révèle le fait que vous êtes en train de construire un modèle interne du phénomène que vous voulez apprendre. Et ce modèle interne, évidemment, il va demander du temps pour se construire et il va devenir assez autonome. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de voir ce qu'il y a à faire pour l'imiter. Mais ça veut dire que ce que vous serez en train de faire, ça ne sera pas de servilement reproduire ce que vous avez vu. Ça sera de faire tourner votre modèle interne de la chose ou du phénomène que vous avez voulu apprendre. Et une fois que vous disposez de ce modèle interne, eh bien, c'est un objet en soi qui n'est pas exactement ce que vous étiez en train de voir. Et vous allez pouvoir, on pourrait dire, le trahir. Trahir l'imitation, ça veut dire injecter du nouveau, faire des tentatives différentes, projeter, avoir une idée Et du coup, arriver...
Contester le modèle.
Contester le modèle. Et on a souvent, même on va dire dans les truismes de l'imitation, ou je sais pas moi, ou les trucs de développement personnel sur l'imitation, c'est oublier ce que vous avez appris, etc. En gros, derrière toutes les idées un peu connes, il y a souvent des choses intéressantes.
Oui.
Donc là, le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, ou bien même des souvenirs scolaires, vous voyez parfois dans des tragédies scolaires, vous voyez des gens qui vont s'effondrer, qui dans les petites classes sont très très forts, dans une forme d'imitation plutôt servile, et puis que d'autres ce ne sont pas dans un truc servile, donc ça a l'air assez moche, assez imparfait, mais qu'en fait il y a un modèle interne qui se construit, qui va se révéler plus riche. Donc imiter, c'est, comme vous le disiez, c'est une brique, elle est fondamentale, mais ça ne se résume pas à ça à apprendre. C'est, on revient à cette idée de qu'est-ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la dimension subjective dans ce sens-là de l'apprentissage, c'est-à-dire ce que vous avez construit en vous comme modèle du monde et de vous-même, c'est ça le plus précieux dans l'apprentissage. Et ça demande du temps. Alors là aussi, les comparaisons avec l'IA, il y a beaucoup de différences. Une des différences, c'est que tous ces algorithmes absolument, moi je trouve ça spectaculaire, et je trouve qu'on aurait tort de ne pas continuer à se surprendre de leur performance que personne ne prédisait il y a 20 ans ou 30 ans. Ils sont entraînés sur des corpus de données abracadabrantesques, quoi. ChatGPT s'est entraîné sur des milliards de textes. Vous allez pondérer des sortes d'équivalents de poids synaptiques de 80 ou 100 milliards de points synaptiques dans un modèle artificiel. Mais vous allez devoir, du coup, entraîner ce modèle sur des corpus gigantesques. Quand vous voyez un bébé ou un enfant, un jeune enfant qui va apprendre l'apprentissage du langage, l'apprentissage d'un mot, parfois on peut faire des apprentissages sur un essai unique. Donc il y a déjà cette idée de modèle interne de quelque chose qui va permettre d'aller en fait à un niveau d'apprentissage qui n'est pas comparable pour l'instant. Ça, une fois de plus, je ne suis pas expert en IA, mais il y a des différences importantes, notamment le temps d'entraînement, les corpus qui vont être nécessaires pour arriver à généraliser des connaissances. Pour l'instant, c'est un des exemples.
Laurence de Villers.
Je suis d'accord en partie, mais avec un petit désaccord qui est en fait, quand l'enfant apprend à 4 ans, son cerveau a vu beaucoup plus de données que ChatGPT parce que c'est son corps aussi qui apprend. Donc tous ces capteurs sensitifs marchent et vont au cerveau. Il n'y a pas que le raisonnement du langage qui est conscient.
Bien sûr.
Y a tout ce qui est inconscient. Et finalement, en termes de volume de données, c'est beaucoup plus important pour un enfant de 4 ans qui a déjà ingéré plein de choses.
C'est tout à fait correct, bien sûr. Mais je veux dire, c'est par exemple l'évolution du lexique. On peut avoir un apprentissage de lexique avec une explosion exponentielle qui va sur des expositions uniques, une scène unique, un mot entendu pour la seule fois, pour la première fois. On peut vraiment très peu d'essais arriver à enrichir un lexique, ce qui est pour l'instant compliqué.
Mais le lexique et les mots sont une petite partie de nous. Si on revient à la philosophie, à la phronésie d'Aristote, il y a la raison où on discute sur les mots, et puis il y a toute la sensibilité, l'intention qui fait partie de nous et qui va justement modifier le discours. Donc ces objets sensibles, c'est notre humanité qui est notre sensibilité aussi, fait que ces machines sont très loin de nous. D'ailleurs, elles ne raisonnent pas. Elles font juste de l'imitation de surface. Mmh. Elles ont absolument pas des stratégies de raisonnement cognitif. C'est absolument pas
et
cognitif.
Et elles ne trahissent pas. J'ai adoré tout à l'heure quand Jonel Nakache a dit à un moment, quand un enfant apprend, etc., il teste le modèle et puis il peut contester le modèle, il peut même le trahir. La notion de trahison n'a aucun sens pour une IA ?
Absolument pas.
Absolument pas de sens.
Non, ça n'a aucun sens. Par contre, dans les données, le paradoxe est aussi dans les données. Est-ce que vous êtes poli avec ChatGPT ?
On s'en fiche de moi. Finissez.
Non, mais c'est important de réfléchir à cela. C'est-à-dire que il faut mieux être poli. Par papier du MIT, donc grand laboratoire aux États-Unis, pour dire que il vaut mieux être poli, la machine sera plus performante. Pourquoi ? Parce que nos données à l'intérieur sont des données de gens polis. Donc c'est vrai que cette machine n'est pas neutre. Elle contient des fake news, des informations réalistes et des connaissances, mais elle ne manipule pas, elle ne produit pas des connaissances, elle ne produit pas des affects, elle ne produit pas des valeurs morales. Elle copie des petits bouts de ça qui sont à l'intérieur des données. Et donc c'est un objet, un dispositif, ce serait le meilleur terme pour parler de l'intelligence artificielle, ce sont des dispositifs qui modifient un peu nos données, mais qui contiennent aussi de ces données, et on projette dessus qu'elles ont des connaissances, c'est faux, elles ont perdu leurs sources, et les sources, c'est-à-dire l'origine du fait, c'est très important pour un journaliste, très important, c'est un scientifique, ces machines produisent des choses sans source, sans vérification d'aucune véracité, et fait l'opinion est mélangée à des faits, à des choses qui sont théoriques. Donc c'est vraiment un fousitou. Et je trouve que on ne parle pas assez de cette arnaque.
Alors cette arnaque, moi j'ai une question sur l'arnaque puisque vous m'interrogiez. J'ai l'impression que maintenant on a plein de d'équivalents de chat GPT qui sont en train de d'arriver. Et comme s'il y avait une concurrence de marché, on ne leur donne pas tout à fait les mêmes données. C'est-à-dire que ça produit des situations absurdes où certaines IA, en fait, elles n'ont même pas Google et Wikipédia, qui est 10 fois mieux fait, parfois, pour prendre des renseignements sur un personnage qui existe, que ce qu'on leur a donné. Comment c'est possible? Même nous, on a accès à Wikipédia ou Google. J'ai pas dit que c'était le Graal, j'ai dit juste que ça existe. Il y a quand même des sources, parfois, vous le savez très bien, sur Wikipédia. Et certaines n'ont carrément pas intégré ces choses très utiles.
Oui, alors, pour beaucoup, elles ont quand même ces données-là, avec autre chose. Donc, ça peut être mélangé, et c'est toujours ce fousitou. Il faut savoir quand même, c'est 95% de données qui viennent des anglo-saxons, hein, qui sont dans ces machines. Donc déjà, il y a une vision politique qui n'est pas forcément la nôtre, à travers l'enchaînement de ces petites unités qui vont servir à produire le texte, en français ou dans d'autres langues. Lama 3, formidable, mais on sait 95% d'anglais, avec dans les 5%, 30 langues autres. Okay. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces outils ne sont pas du tout capables de transmettre quelque chose de vérifié. Mais par contre, on a mis des filtres. Comme ça, hallucine, si vous voulez, c'est un outil qui a ce LLM, cette IA générative au cœur, qui sont des transformers, qui a aggloméré des milliards de données et qui l'a encodé. Et au-dessus, parce que ça hallucine, on met des filtres. On fait ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire on va vérifier sur des documents internes. Donc, il faut arrêter de parler d'IA générative générale, de l'intelligence artificielle comme un humain.
Parfois, ça n'a rien à voir. Qu'un moteur de recherche. Parfois, elles sont plus mauvaises qu'un moteur de recherche basique qu'on a depuis 30 ans.
Je pense qu'il faudrait arrêter ce truc-là. C'est-à-dire que la compétition qu'on voit pour aller vers l'humain est quelque chose de complètement inefficace. Ça rend l'humain obsolète, quelque part. Des gens disent ça. C'est complètement stupide. Il faut raisonner sur l'utilité de ces outils. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Lionel. Pour des verticales, avec des vérifications. C'est ce que font les entreprises. Elles ont leurs propres données en interne pour aller vérifier ce qui est dit. Donc, ces objets sont totalement inutiles. Et ce qu'ils cherchent juste à faire, c'est la course au marketing et au pouvoir.
Alors maintenant, on va parler d'un monsieur, un neurologue important, semble-t-il, né en 1937. Non, pardon, il était médecin et biologiste italien. C'est vous, Lionel Nakache, qui avez attiré notre attention sur lui. Il a inventé la notion de neurone miroir. Là, on parle des humains.
Oui, pas que d'ailleurs.
Ben justement, vous allez me dire. Oui. Alors, on écoute ce personnage expliquer ces neurones miroirs.
Avec mon équipe, nous avons étudié comment le système moteur du singe réagissait lorsque nous lui présentions un objet. Nous avons remarqué que dans la majorité des cas, il ne suffisait pas de montrer un objet au singe, mais il fallait aussi se saisir de l'objet, et donc montrer au singe l'objet et notre main qui le saisissait. C'était vraiment inattendu. Nous avons trouvé des neurones qui émettaient des signaux pendant que nous faisions cela. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un lien évident entre notre action et celle du singe, parce que le singe qui se saisit de l'objet de cette manière nous a vu le faire. Nous avons donc découvert des neurones qui répondent à des stimuli visuels, qui nécessitent une personne agissant sur un objet et qui doivent présenter une corrélation entre ce que le singe est capable de faire et ce que nous faisons. Ces neurones, ce sont les neurones miroirs.
Ce médecin biologiste italien qui s'exprime là s'appelle Giacomo Rizzolatti. Absolument. Est-ce que vous pourriez expliquer, Lionel Nakache, peut-être avec plus d'exemples, ce qu'il vient de nous dire?
Oui, ce qu'il vient de nous dire, en fait, c'est une des grandes découvertes de la fin du XXe siècle en neurosciences cognitives. C'est effectivement qui porte le nom de découverte des neurones miroirs. Alors, comme Giacomo Rizzolatti qu'on écoutait avec ses collègues, notamment Vittorio Galese et d'autres, en fait, ils sont, je crois, c'est à Parme, ils étudient en fait la préparation motrice dans le cerveau. Donc, comment est-ce qu'on prépare l'action de manière générale? Et dans les modèles utilisés, ils étudient ça chez des primates non humains, parce que chez des primates non humains, certaines expériences sont plus simples à conduire, et notamment le domaine de Rizzolatti, c'est d'enfoncer des micro-électrodes qui permettent d'enregistrer un ou quelques neurones, mais pas tout seul dans un bocal.
Ce qu'ils sont en train de faire,
vous voulez dire ? Qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils sont branchés sur tout le reste du cerveau de l'animal qui est en train de se comporter avec le monde.
Donnez-nous un exemple.
Alors voilà, par exemple, donc ils sont en train, vraiment, une des scènes, la scène fondatrice de la découverte, c'est ça. Ils sont avec Galese en train d'enregistrer un neurone du réseau moteur d'imprimante non humain. Et il découvre, alors comment on cherche quand on a un neurone, c'est un peu comme des informaticiens, on essaye de décrypter, de savoir quel est de casser le code, donc de savoir, vous savez qu'un neurone c'est soit au repos, soit il y a des potentiels d'action qu'on peut enregistrer, donc des excitations du neurone qui envoie des messages, qui se met à communiquer avec ses voisins. Donc vous allez savoir quel est, dans quelles circonstances ce neurone passe en mode potentiel action, donc mode actif. Et donc il découvre par hasard, je passe les détails, que lorsque le singe, il a une cacahuète devant lui, lorsqu'il réalise un geste assez complexe, le pouvoir de préhension de la cacahuète avec son membre supérieur, ce neurone, parmi évidemment des millions d'autres, se met à s'activer. Oui. On peut l'enregistrer. Oui. D'ailleurs, au laboratoire, on donne une transduction sonore souvent, donc on entend vraiment le son, tic-tic-tic, des potentiels d'action. Et puis, de manière totalement, par sérendipité, comme on dit, donc par hasard, un hasard vraiment créateur, Galézé, qui est en face du singe, se met un peu presque par blague, il y a une cacahuète, à prendre la cacahuète à son tour. Donc ce n'est plus le singe. Le singe ne bouge pas, mais voit une sorte de congénère humain qui fait le même geste que lui. Oui. Et le neurone de ce circuit moteur se met à répondre de la même façon que lorsque c'était l'animal qui était en train de saisir la cacahuète.
Donc le primate, enfin le singe, ouais. qu'il prenne lui la cacahuète ou qu'il voit c'est un humain ou d'ailleurs un congénère
exactement.
Prendre la cacahuète,
exactement.
Cérébralement,
c'est ça,
il y a
découverte.
Un circuit qui a également
qui fait la même chose.
Stimulé.
Voilà. Et c'est ce que disait Rizzolatti en disant nos résultats sont congruents. Donc la réponse des neurones était congruente, c'était la même en fait lorsqu'il y avait la réalisation de l'action ou l'observation de l'action chez un congénère. Et donc c'est pour ça qu'on donne cette idée de neurone miroir, c'est qu'en fait ces neurones à la fois sont impliqués dans les actions de l'animal, mais lorsque lui-même observe les mêmes actions. Et ça a été utilisé, alors, comme tous les grands concepts, les grandes découvertes, c'est une grande découverte, fait partie des nobélisables possibles par Rizzolatti pour cette découverte-là, mais comme toutes les grandes découvertes, elle est parfois galvaudée. Alors, le point important, c'est que ça a été une sorte de brique élémentaire de mimésis, presque, de se dire, on a peut-être un système de compagnonnage, apprentissage, dans les actions motrices, mais dans le langage, dans plein d'autres choses, ou même dans les intentions d'autrui, d'essayer de se représenter nos intentions et de se dire, bah, si quelqu'un se comporte comme ça, il est peut-être en train de mentir, ou au contraire, ça veut dire qu'il pense ceci, etc. Donc, on a pu commencer à généraliser la valeur du concept de neurone miroir au-delà de l'action motrice.
Et c'est excessif.
Et oui, c'est évidemment excessif.
Par exemple, pour l'empathie. C'est excessif ou bien c'est justifié
alors,
de dire
semble...
que c'est le fondement ouais, d'une empathie.
C'est une des briques, mais ce n'est pas la seule. C'est une des briques. Un des exemples, il y a un philosophe français, Pierre Jacob, qui fait partie de cette classe de philosophes qui, pour nous, est très précieuse, qui vraiment mettent les mains dans les neurosciences cognitives. Donc, Pierre Jacob, il y a longtemps, avait aussi, avec Marc Jeanneau, qui était un très grand neurophysiologiste qui a disparu maintenant, qui travaille sur la aussi, ils ont formulé des critiques intéressantes sur ça. Non pas des critiques pour disqualifier le neurone miroir, mais pour en montrer les limites. Et si je me souviens bien, une des métaphores de Pierre Jacob, c'était de dire, ben, si vous prenez le cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, eh bien, vous pouvez imaginer quelqu'un qui voit Dr. Jekyll faire une appendicectomie le jour comme médecin et Mr. Hyde disséquer oui. une prostituée la nuit. Avec la même action, vous direz, le neurone miroir s'active de la même façon, c'est le même geste, sauf qu'il n'y a pas la même intention dans les deux cas. Et donc, pour
ni
souligner,
peut-être la même émotion.
Et ni la même émotion. Donc, juste simplement pour souligner qu'évidemment, le neurone miroir peut véhiculer une information pertinente, et ça, c'est certain, mais il ne faut pas lui dire plus que ce qu'elle ne dit. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut le brancher ça, c'est une des briques parmi d'autres choses. Et au passage, il y avait un clin d'œil amusant de voir que la mimésis, qui était parfois considérée comme une des fonctions humaines par excellence, de pouvoir imiter la nature, le réel, etc., de voir oui. qu'on découvre les neurones miroirs, non pas chez l'homme, mais chez les primates non humains.
On suppose donc qu'ils existent.
Ils existent chez l'homme, bien sûr, mais ils n'existent pas que chez l'homme.
Oui,
absolument, mais ils ne sont pas propres à l'espèce humaine.
Donc, en fait, on a cette possibilité d'imiter dans notre cerveau, si j'ose dire, ce que d'autres sont en train d'avoir dans leur cerveau.
Oui, absolument.
Voilà. Mais à quoi ça sert ? Est-ce que c'est pris dans toute cette zone-là dont vous parlez
oui.
beaucoup, du lobe préfrontal ?
Oui.
Et est-ce que selon les lésions éventuelles de ce lobe préfrontal, ça peut produire des choses complètement opposées, différentes, folles ?
Oui, alors c'est une question, vraiment c'est un sujet fascinant parce qu'en fait, le lobe frontal, donc c'est ce qu'il y a juste derrière le front, le cortex préfrontal, c'est on va dire une des structures cérébrales, c'est le lobe cérébral le plus volumineux, c'est quasiment un tiers du cerveau, c'est celui qui est le plus différent entre les primates humains et les primates non humains.
Ah, oui.
Et en fait, ce qu'on sait depuis longtemps par la neurologie cette fois-ci, on commence même par de la neurologie classique.
Mm-hmm.
La neurologie, c'est que les premiers patients qui avaient des lésions préfrontales, pendant longtemps, étaient considérés comme des patients qui avaient des lésions sans traduction clinique. Donc on parlait dans des vieux textes, on trouve des textes, ce sont des zones muettes du cerveau, un peu des régions inexploitées du cerveau, voilà, parce que
oui, pourquoi ? Ils avaient des lésions, mais ça se voyait pas.
Ça se voyait pas parce qu'on les voyait mal. Ça se voyait pas, c'est-à-dire que les patients n'étaient pas paralysés. n'étaient pas aveugles, n'étaient pas aphasiques, n'étaient pas insensibles au toucher. Ouais. Donc on se dit, bah, ils n'ont rien perdu. Sauf que dès que vous les examinez bien, et ces examens ont commencé dans les années 30, 40 et surtout 60, en fait, on découvre que vraiment, on pourrait dire le propre de l'homme, c'est-à-dire le sens de l'humour, l'intelligence humaine, sociale, la capacité à imaginer, à projeter, à se projeter dans quelque chose qui n'existe pas, à sortir de l'ici et maintenant, tout ça, c'est quasiment impossible lorsque les patients présentent des lésions frontales massives. Et un des tests, et c'est en ça que c'est intéressant pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un des tests qu'on explore en clinique, c'est que lorsque vous faites des actions devant un patient qui a des lésions des cortex préfrontaux, des cortex frontaux importantes, il peut y avoir ce qu'on appelle des comportements d'imitation. C'est vraiment le nom propre, le signe clinique, c'est un comportement d'imitation.
Pas le jugement propre, mais...
C'est-à-dire que vous vous mettez à taper dans les mains, voire même vous demandez au patient... vous lui expliquez, écoutez, on va faire comme si vous étiez au spectacle, je vais faire des choses devant vous, mais vous restez vraiment impassible et vous ne bougez pas, vous me regardez simplement. Et certains patients ne peuvent pas s'empêcher d'imiter ce qu'ils voient. Donc vous tapez dans les mains, ils vont imiter
c'est
dans les mains.
Incroyable.
Et là, on arrive...
Qu'est-ce que ça veut dire
et ce que ça nous dit, c'est que, pour moi en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on disait tout à l'heure au début que l'imitation, elle donne à voir un comportement... mais que c'est que le sommet de l'iceberg, parce que ce comportement, sa richesse, c'est qu'il y a un modèle interne chez l'individu qui lui permet de produire et d'imiter quelque chose, et d'imiter plus ou moins bien, et voire de trahir l'imitation. Oui. Eh bien, on pourrait dire que dans l'imitation des lésions du cortex préfrontal, ces comportements d'imitation, c'est une imitation extrêmement servile. Il y a juste les niveaux les plus superficiels, comme disait Laurence, toute la profondeur de la construction d'un modèle interne que vous allez pouvoir inhiber, contrôler, modifier, est mise en défaut chez ces patients. Donc en fait, effectivement, lorsque nous apprenons par imitation, il y a une imitation qui va viser en surface à reproduire quelque chose, mais la vraie richesse de l'apprentissage par imitation, c'est pas l'imitation, c'est ce que l'imitation aura permis de faire.
Mais... Et les intelligences artificielles ressembleraient-elles à des humains qui ont des lésions du lobe préfrontal?
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Je crois qu'il y a plein de choses fascinantes. Vous disiez, qu'est-ce qui distingue? Pour moi, une des choses qui distingue, c'est un peu aussi ce que disait Laurence sur les IA généralistes, disons, c'est qu'une des, un des points propres de, en tout cas, même pas seulement de l'humain, mais de la prise de conscience, un élément qu'on n'a pas dans des, pour l'instant, dans des systèmes artificiels, c'est que quand vous prenez conscience d'une information, il se passe un phénomène qu'on appelle la disponibilité cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez conscience d'un quelque chose, ce quelque chose, vous pouvez lui faire subir mentalement tout ce que vous savez faire, vous. C'est-à-dire qu'en gros, cette information devient accessible à toutes vos capacités cognitives. Et avec mes collègues Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, Claire Sergent, on a construit depuis 20 ans une théorie de la conscience qui s'appelle Global Neuronal Workspace, qui donne en fait l'équivalent cérébral de ça. C'est-à-dire que quand nous prenons conscience, le moment où on prend conscience, l'information, c'est pas qu'elle est simplement analysée de manière extrêmement sophistiquée, intelligente, de manière non consciente, mais elle pénètre dans un espace mental et cérébral qui autorise cette disponibilité cognitive de l'information. Et ça, pour l'instant, on l'a pas vraiment dans les modèles actuels. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Laurence de Villers, c'est cette analyse sur le lobe préfrontal, ses lésions? Est-ce que ça vous évoque des choses qui concernent les intelligences artificielles?
Oui, alors à deux niveaux. Au bas niveau, vous avez dit on est proche d'un mimétisme du cerveau humain grâce au réseau de neurones. C'est assez faux, en fait. Puisque à la même époque, c'est amusant, Maculot et Pitts, qui sont deux biologistes américains, ont créé finalement à partir d'une cellule de l'aire visuelle un modèle mathématique d'un neurone. Et ce modèle mathématique, c'est encore celui-là qu'on utilise dans tous les modèles de réseaux de neurones qu'on utilise, un peu plus sophistiqués ou pas. Ce qui veut dire quoi? L'activité qui arrive par les dendrites est sommée dans le noyau de la cellule, puis il y a une fonction d'activation qui est une fonction mathématique après, et un poids associé à chaque lien entre deux neurones qui est ce qu'on va simuler, là où on va simuler l'apprentissage. C'est-à-dire, en fait, la façon dont l'activation est diffusée à un autre neurone ou pas. C'est donc ce niveau-là qui est la richesse de ces systèmes, c'est-à-dire des matrices de réel. Au départ, avant d'apprendre à un système quelque chose, on initialise à des valeurs aléatoires. Et puis, on va se mécanisme d'apprentissage. Donc, le lien avec la réalité de notre cerveau, il est très lointain. C'est-à-dire qu'on a utilisé la théorie d'un neurone qui connecte à d'autres, donc une information distribuée. Plus on a utilisé la théorie de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que mon cerveau modifie ses connexions pour apprendre. Mais c'est tout. C'est un neurone de l'aire visuelle. Dans notre cerveau, on a combien de types de neurones différents? Plus d'une centaine. Et il y a des connexions différentes. Nous, ce sont des connexions totalement artificielles. Donc même dans
le
niveau,
les IA.
C'est faux.
Oui.
D'accord. Ça ne reproduit pas le cerveau humain. Et le PFL qui a voulu faire ce Blue Brain Project, qui était de modéliser le cerveau d'un mammifère, un petit mammifère, une souris ou un rat, a été un échec.
Alors cet échec.
Le deuxième point au niveau,
oui, bien sûr.
C'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de faire du marketing sur les systèmes qui résonnent. Or, qu'est-ce qu'ils font ces systèmes qui résonnent? Ils prennent votre question, votre prompt, on appelle ça, et ils vont le découper en petits bouts pour faire en fait une chaîne de pensée. Entre guillemets encore, une métaphore, parce que ça ne pense pas, ces machines. Et donc, on va faire des requêtes sur les petits bouts de la séquence, et dans une mémoire de travail, on va analyser ça pour rendre finalement un résultat souvent meilleur, parce que vous avez fait pas à pas, finalement, une séquence d'abstraction. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir avec un raisonnement aussi sophistiqué qu'à l'humain, puisqu'il y a de la sensibilité, puisqu'il y a l'histoire qui compte, puisqu'il y a la façon dont il a appris, avec son corps également. Oui. Et j'insiste sur la présence du corps, hein, le cerveau n'est pas tout seul dans l'apprentissage. Et donc c'est important de comprendre que nous sommes extrêmement différents de la machinerie qu'on a mis dans ces réseaux de neurones.
Alors, pour parler des échecs, parce que c'est intéressant les échecs, ça permet l'échec d'une machine à remplir le rôle qu'on pensait qu'elles pouvaient jouer. Qu'est-ce que ça dit de leurs insuffisances ? Voici l'exemple de robots qui ont été licenciés d'un hôtel au Japon parce qu'ils ne faisaient pas le job comme on le souhaitait et comme on avait cru qu'ils étaient capables de le faire. Voici l'extrait d'un reportage qui a passé sur M6 le 18 janvier 2019.
L'hôtel japonais géré par des robots depuis 2015 fait machine arrière. Il s'est séparé de la moitié de ses 250 robots. Incompétents, certains agaçaient la clientèle. Le dinosaure de la réception ne comprenait pas les demandes les plus simples. Quant à l'assistant vocal de chambre, il a réveillé plusieurs clients en pleine nuit, prenant leur ronflement pour des questions. L'hôtel, qui pensait pouvoir se passer d'humain, va devoir embaucher des salariés en chair et en os.
Donc là, Laurence de Villers, elle se marre, parce qu'en fait, elle adore les échecs des IA. Expliquez-nous, c'est normal, il fallait s'y attendre.
Oui, bien sûr, il fallait s'y attendre. Et puis, il y avait aussi là, une propension à marketer que le Japon est très fort en robotique, etc. Bon, ces robots dans ces hôtels, il fallait voir que c'était vraiment des démonstrations de force. Donc, c'était effectivement réceptionniste ou c'était des gadgets. Il y avait plein d'humains qui faisaient petites mains. C'est-à-dire, pour aller laver votre chambre, c'était pas un robot qui le faisait. Hein. En fait, c'est le même principe de Moravec dont on a parlé tout à l'heure. Tout ce qui est de l'agilité dans l'espace, la machine est très, très faible. Qu'on la mette réceptionniste à un endroit et qu'elle essaie d'avoir une conversation, c'est ce qu'on sait faire à peu près de mieux, on va dire. Et donc, attention à pas confondre cela. Et c'est d'ailleurs très important de comprendre qu'il existe tout un travail invisible de petites mains qui sont là pour annoter des données, pour trier, pour aider ces systèmes à apprendre des choses de façon très artificielle. Donc demain, peut-être qu'il va y avoir un grand remplacement dans le travail qu'on n'a pas beaucoup anticipé. Parce que ces IA marchent de mieux en mieux, comme vous l'avez dit, sur le travail numérisé, hein, qui est appauvri du réel, mais qui existe quand même, et qui est utile dans beaucoup de métiers. Et donc, on risque d'avoir des remplacements réels avec, peut-être, nous, une délégation à des tâches plus manuelles.
Donc, la machine, le travail manuel risque d'augmenter.
Alors,
tandis
c'est
que d'autres travaux peuvent aisément être faits par des IA.
Alors, faut bien penser dans ce que je viens de dire. On dit col bleu, col gris, col blanc. C'est pas comme ça qu'il faut l'imaginer. Le travail de la main est essentiel dans la créativité, dans la sérendipité.
Alors là, on va interroger le
neurologue. Pour aller plus loin, il faut avoir une présence physique aussi. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est pas du tout du mépris. Au contraire, c'est une revalorisation du travail de l'humain.
Alors, il y a beaucoup de choses. Lionel Nakache, je vous laisse commenter en toute liberté. Si je veux dire.
Oui, moi, ce qui m'amusait dans le sujet que vous avez passé, c'est qu'en fait, presque paradoxalement, je trouve que ça alimente encore plus la similarité avec l'humain, parce que à travers cette notion de licenciement,
des robots,
c'est encore plus, presque on rentre dans la lutte de la sociale, de la souffrance sociale des robots. Oui. Alors qu'avant, on aurait dit, par exemple, je me débarrasse de ma voiture pour prendre un vélo. Mais là, utiliser le verbe licencier, c'est vraiment, c'est sans doute, peut-être que c'était l'intention des propriétaires de l'hôtel, d'humaniser encore plus en les licenciant, en fait. Parce que c'est attribué à un statut qui n'est pas le leur.
Et probablement, dans ma façon de lancer le sujet, j'ai accentué encore la chose.
Non, vous avez raison.
Comique. Mais quant au fait que les travaux manuels, la plomberie, disait tout à l'heure Laurence de Villers, tout ce qui fait appel à la main, le nettoyage, des choses, franchement, ça pourrait être intéressant qu'on ait des robots. Ben, c'est précisément là où ça marche le moins bien. Oui, et dans un hôtel, c'est un peu embêtant.
Ce qu'on disait un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, là aussi, c'était contre-intuitif, c'est que les tâches qui ont le plus, dans leur performance extérieure, à nouveau, peuvent être accomplies par des robots, typiquement jouer aux échecs ou au go. Beaucoup de gens, on serait dit avant, c'était le summum de l'intelligence. Et en fait, l'intelligence, souvent la plus complexe, et celle qui est la plus dure à modéliser, c'est pas simplement d'un univers à observer sur lequel vous devriez prendre une décision, c'est d'être en permanence dans une interaction. Donc, arriver à modéliser la façon de laquelle est le monde, et vous agissez sur le monde, et ces transformations visio-motrices, par exemple, en temps réel, c'est d'un point de vue même strictement computationnel, très complexe. D'après moi, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas encore un coiffeur, un artisan. Donc, l'intelligence de la main, qu'on voudrait dire, voilà, c'est pas dans un discours un peu, disons, politiquement correct, mais c'est évident que c'est fait partie des choses les plus difficiles à simuler. Et puis, il y a le rapport au corps, ce que disait Laurence. Alors, pour moi, c'est un point important. C'est que parfois, les gens disent, il y a le cerveau et le corps. Non, déjà, c'est une erreur dualiste. Le cerveau, c'est un organe du corps. Simplement, ce n'est pas le seul organe. Donc, effectivement, il y a un sujet très fascinant qui est à quel point les interactions entre cet organe particulier du corps qu'est le cerveau et les autres organes du corps jouent un rôle dans l'apprentissage à la fois de processus cognitifs, mais même dans la conscience de soi, en fait, dans l'émergence de soi. On voit bien, par exemple, que si on s'intéresse à notre position dans notre corps, où est-ce que nous sommes ? En général, si on se pose, des collègues à moi se posent travail sur ça, et donc, où est-ce que vous êtes vraiment ? On est rarement dans notre petit doigt, quoi. Et donc, on peut se rendre compte qu'en fait, on associe subjectivement notre position dans l'espace et dans notre corps à le point de vue qu'on a sur l'existence. Et
la main, par exemple. Est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui que si des enfants demain n'apprennent pas à écrire avec leurs mains, mais uniquement en tapant sur des machines, est-ce que vraiment ils vont moins bien apprendre à lire ?
Alors c'est une fois de plus, en science, qu'on aime bien, nous, c'est de ne pas être idéologue en oui non à l'avance, donc on réfléchit, quoi, et on n'a pas de dogme, donc voilà. Donc on ne sait pas, en fait. Mais ce qu'on sait simplement, c'est que quand vous écrivez, il y a des réseaux cérébraux particuliers. Par exemple, il y a une région qui était identifiée il y a longtemps, l'aire d'Exner, qui est branchée sur d'autres régions du langage, et donc qui va être vraiment, comme une statue intérieure qui va vraiment se spécifier, s'enrichir par la pratique d'une écriture graphique, etc. Donc si on perd ça, si on ne fait que taper sur des touches, évidemment qu'on va développer d'autres compétences, on va perdre celle-ci peut-être.
Ouais,
on va...
Comme des IA qui, elles, pour le coup, n'ont pas de main. Et donc, elles apprennent toujours à lire et à écrire.
Ouais, mais alors, on pourrait imaginer dans la robotique, branchée robotique IA, vous pouvez avoir de simuler robotiquement des aspects visio-moteurs très complexes. C'est ce que font nos collègues de roboticiens qui font de l'IA et de la robotique. Là, il peut y avoir aussi des perspectives intéressantes. Moi, je serais, peut-être que Laurence est un peu véhémente, mais moi, je serais beaucoup moins radical. Par exemple, les principes d'apprentissage neuronaux. Il y a des phénomènes fascinants et il faut vraiment lire ces travaux, c'est important. Personne ne dit que quelqu'un simule le cerveau. Et dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones d'ailleurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que par exemple, on avait découvert, je le dis en deux minutes, en an 2000 avec mes collègues Laurent Cohen et Stanislas, que quand vous lisez un mot sur un texte, il y a une succession d'étapes dans votre cerveau depuis V1 qui a une carte rétinienne de ce qui se passe en fait dans la rétine, c'est-à-dire une carte visuelle assez, assez pauvre en fait, mais des sortes de contrastes visuels. Et puis au fur et à mesure des aires cérébrales de la vision, il y a une dizaine de régions. Vous arrivez à extraire l'identification, par exemple, vous avez la lettre A écrite en majuscule ou en minuscule, en gros, à gauche ou à droite, en haut, eh bien, vous avez des neurones qui sont capables de répondre à cet objet visuel assez abstrait, quelles que soient les conditions de présentation. Donc, on pourrait dire qu'ils ont normalisé pour les aspects physiques de présentation la lettre A. On a appelé cette R la forme visuelle du mot. Et des collègues à nous qui travaillent en collaboration avec nous ont montré, en fait, que quand vous entraînez une IA type deep learning qui essaye de simuler de manière pauvre, on est d'accord avec Laurence, mais néanmoins de prendre ce concept d'apprentissage sur les pondérations synaptiques d'une série de voies, de régions cérébrales qui essayent de ressembler plus ou moins bien à un cerveau humain, et on voit qu'elle commence à reproduire un peu ce qui se passe dans cette gain d'abstraction. Donc, une fois de plus, je ne dis pas du tout que les réseaux convolutifs, ils font ce que font un cerveau, mais ça serait une erreur de ne pas voir qu'on arrive à capturer une des propriétés qu'on commence un peu à comprendre, qui revient à Maculloch-Pitts, etc. Et quand on arrive à l'imbriquer dans des réseaux artificiels assez complexes, on commence à extraire certaines propriétés. Je ne dis pas que le cerveau artificiel est conscient, je ne dis pas qu'il a toutes les propriétés, mais il serait dommage de ne pas voir que par ces concepts, qui sont un concept parmi beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres qu'on ignore, on arrive néanmoins à rentrer dans cette boîte noire. Et ça, c'est fascinant. C'est
vrai. Non, mais je suis totalement d'accord avec Laurence. Je dis juste qu'à l'heure actuelle, c'est limité.
Oui.
Et il ne faudrait pas qu'il y ait cette naïveté de penser qu'on imite un cerveau.
Je suis complètement d'accord, mais je pense que c'est important aussi d'expliquer en quoi le sujet est intéressant, et même est un sujet presque politique, c'est qu'en face, c'est pas qu'il y a du vent. Il y a des choses vraiment qui arrivent à capturer des propriétés de fonctionnement et arriver à les mettre en application. Donc c'est pour ça que le sujet devient intéressant.
Tout à fait, mais il y a ce problème du corps et de la connexion
absolument
entre ce qu'on voit et la réaction corporelle. Et c'est pareil, cette dualité, Spinoza en parlait très bien, il faut vraiment l'imaginer ensemble.
Bien
Or,
sûr.
C'est pas encore comme ça que sont créés ces systèmes.
Et c'est pour ça que les travaux des roboticiens sont importants.
Alors, pour avoir travaillé beaucoup avec des roboticiens, ils discriminent, c'est vraiment une dualité. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont capables de faire marcher la machine physiquement, mais marcher avec sa tête et son cerveau, il y en a très peu qui vont dans cette direction, c'est un axe de recherche, et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations très poussées pour imbriquer ces deux mécanismes. Les roboticiens étaient plutôt ceux du mouvement physique, et moi je appartiens aux gens qui ont travaillé sur le traitement du langage, qui est plus l'image de ce que fait le cerveau, et trouver les deux ensemble, c'est encore balbutiant. C'est pour ça qu'on n'a pas tous ces robots autour de nous, et c'est pour ça qu'au Japon, ils sont effrayés par le fait que la population vieillissante, ils avaient pensé que les robots allaient apporter...
La conversation aux personnes âgées, par exemple.
Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Mais disons qu'ils allaient se rendre des services un peu partout, dans différents métiers physiques. Et là, ils reviennent en arrière en disant, c'est pas possible.
Il y a un vrai retour en arrière, hein.
Ben, en fait, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau d'état de l'art de ces systèmes pour avoir des robots autour de nous. Il y a une dépense d'énergie aussi énorme dans ces systèmes qu'on va faire. Ça a un coût aussi. Il faut évaluer tous ces composants pour savoir comment on va faire demain. Parce que notre population aussi est en train de vieillir. Mmh. Et donc, on aura ce même problème de voir des remplacements par des machines. Il faut bien judicieusement qu'on comprenne que c'est pas juste au niveau des cols gris qu'il faut remplacer les gens, mais que dans la population entière, il y a tout un tas de métiers dont on est dépendant, qu'il faudra aussi remplacer.
Et en tout cas, dans toutes ces formes d'apprentissage, puisqu'on dit qu'elles apprennent, il y a le deep learning, que ce soit par la main, pour l'apprentissage de l'écriture, pour les enfants, ou sans la main, de toute façon, il faut imiter. Il faut s'entraîner beaucoup
absolument
sur plusieurs situations, que ce soit le cerveau humain ou l'agencement des neurones artificiels d'une IA. Vous confirmez, Lionel Nakache, que la base de cet apprentissage, même s'il est différent dans les deux cas, c'est imiter.
C'est une imitation, elle n'a même pas besoin d'être volontaire. Il y a plusieurs niveaux, comme on a vu. Et donc, on va dire, c'est dans notre condition humaine aussi d'imiter. C'est comme ça qu'on apprend dès le plus jeune âge, qu'on le veuille ou pas.
Oui, donc vous et la question est donc de savoir à quel moment on peut s'extraire de ce qu'on a imité.
Oui, à quel moment cette imitation va nous permettre de construire un modèle interne très riche. Voilà, pour moi, c'est ça l'intérêt, c'est de revenir sur cette dimension subjective. Vraiment, qu'est-ce qui aura été fait?
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world the monkey won't do.
Dressing, the monkey dressing too.
Nothing in the world the monkey won't do.
I'm going out, the monkey going out too.
Nothing in the world the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world the monkey won't do.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing in the world the monkey won't do.
I'm drinking, the monkey drinking too.
Nothing in the world the monkey won't do.
I'm eating, the monkey eating too.
Nothing in the world the monkey won't do.
I do the monkey want to.
Nothing in the world the monkey
want
to.
I drinking the monkey drinking too.
Nothing in the world the monkey want to.
I eating the monkey eating too.
Nothing in the world the monkey want to.
Thank you.
Everything I do, the monkey won't do.
Nothing the world, the monkey won't do.
Everything ça I s'appelle do, Monkey Song. C'est une chanson de Blind Blake de 1952. Merci beaucoup Laurence de Villers et Lionel Nakache. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Maintenant, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au printemps. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi associe-t-on le printemps et la liberté ? On est devenu prudent et peut-être même méfiant avec certaines métaphores naturelles pour penser les événements politiques. Bien sûr, on a longtemps parlé du printemps des peuples depuis 1848 en Europe. Bien sûr, en mai 68, dans différents pays d'Europe, là aussi, et avec des destins différents en France, mais aussi en République tchèque, où cela a été réprimé très violemment, le fameux printemps de Prague. Oui, le printemps semble associé à l'émancipation des peuples par une tyrannie qui aurait précédé. Le printemps semble associé à une révolution émancipatrice, même si parfois elle peut tourner à la terreur ou être réprimée dans le sang. Ainsi, vers 2011, on parlait des printemps arabes ou du printemps arabe, et il a été dans beaucoup de pays réprimé dans le sang. Et du coup, cette métaphore lyrique a été beaucoup critiquée à juste titre. A-t-on raison de parler du printemps comme d'une métaphore de la liberté ? Pourquoi associe-t-on le printemps, une saison comme une autre, finalement, dans la succession des rythmes saisonniers du cosmos auxquels sont associées nos vies, pourquoi associe-t-on le printemps à la liberté ? Il y a des printemps qui ont été, comme le disait Vladimir Jankélévitch, indifférents à la vie et à la mort des hommes. Ce printemps, comme le disait Jankélévitch, il faut le relire. Les arbres fleurissent à Auschwitz comme ils fleurissent partout, et l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces lieux d'inexprimable horreur. Et il y a des émancipations qui ont lieu en plein hiver. Par exemple, cette libération des camps en janvier. Donc rien à voir avec la liberté et la politique. Il faut se méfier de ces métaphores naturalisantes, de cet idéalisme qui fait que nous commentons derrière nos écrans les printemps des autres et leur écrasement parfois dans le sang. Et pourtant, il y a quelque chose qui résiste dans cette métaphore. Oui, le printemps des peuples, le joli mois de mai, le printemps, le temps des cerises. Le temps des cerises, lui aussi, réprimé dans le sang, c'est le printemps de 1870 à Paris, ce temps des cerises qu'on rechante pourtant avec quelque chose comme une ritournelle qui revient tous les printemps. Qu'est-ce que cela nous indique ? Cela nous indique au fond que l'alternance des saisons n'est pas un rythme de l'éternel retour toujours identique. Ce n'est pas non plus une nouveauté uniforme et anonyme. C'est une métaphore de la vie, une métaphore de la polarité vitale, ou plutôt la réalité de la polarité vitale, une croissance énergique qui retombe en dépense d'énergie, et c'est l'usure de la vie qui chaque fois fait que les feuilles qui surgissent au printemps vont se faner à l'automne et tomber à l'hiver. Il y a donc cette polarité vitale, mais il faut aller encore plus loin. Chez les humains, la polarité n'est jamais seulement vitale, peut-être est-elle d'abord morale et politique. Oui, l'alternance de l'hiver et du printemps, pour les humains, c'est la métaphore de l'enfermement et de la sortie, de la libération. Il y a quelque chose qui fait que les humains projettent non seulement leurs risques vitaux, la mort en général et la vie, mais l'émancipation, la libération d'une mort humaine, d'une violence humaine sur le rythme des saisons. Irrépressiblement, nous associons le printemps à la liberté, l'hiver au cloisonnement, au confinement, à l'emprisonnement. Irrépressiblement, nous aspirons au printemps parce que nous voulons la liberté.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Margot Page et Nicolas Berger, avec à la technique Mineta Diawara. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Nassim El Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.